Deux pruniers soigneusement taillés encadrent l'imposant portail de la bibliothèque commémorative Komoa. Une fois passé ce portail, on suit une allée de gravier sinueuse. Les massifs sont bien entretenus. Il n'y a pas une feuille par terre. Le jardin est planté de pins, de magnolias, de corettes, d'azalées aussi. Plusieurs vieilles lanternes de taille imposante sont disposées entre les buissons, et j'aperçois même un petit étang. J'arrive bientôt devant une entrée à l'architecture raffinée. J'hésite un moment face à la porte ouverte. Cette bibliothèque-là ne ressemble à aucune de celles que je connais. Mais je suis venu exprès jusqu'ici, il ne me reste qu'à franchir le seuil. À peine ai-je passé la porte qu'un jeune homme installé derrière un comptoir me débarrasse de mes affaires. J'enlève mon sac à dos, puis mes lunettes de soleil et ma casquette. « C'est la première fois que vous venez ?» demande le jeune employé d'un ton calme et décontracté. Il a un timbre un peu aigu, mais parle doucement, d'une voix égale. Je hoche la tête. Aucun son ne veut sortir de ma bouche. Je me sens tendu. Je ne m'attendais pas à cette question. Un long crayon bien taillé entre les doigts, le jeune homme fixe mon visage avec intérêt. Son crayon est jaune, avec une gomme au bout. Lui, il est petit, avec un visage au trait régulier. Plutôt que beau garçon, on peut dire simplement qu'il est beau. Il porte une chemise de coton blanc à manches longues, déboutonnée en haut, et un pantalon de coton vert olive, impeccablement repassé. Il a les cheveux plutôt longs, et quand il penche la tête en avant, sa mèche lui tombe sur le front. Il la relève distraitement de temps à autre. Ses manches sont roulées jusqu'au coude, révélant des poignets minces et blancs. Ses lunettes à fine monture mettent son visage en valeur. La petite étiquette blanche en plastique accrochée sur sa poitrine indique qu'il s'appelle Oshima. Il ne ressemble à aucun des bibliothécaires que j'ai rencontrés jusqu'ici. Vous pouvez examiner librement les rayons. Si un ouvrage vous intéresse, apportez-le dans la salle de lecture pour le consulter. Les livres rares sont signalés par une vignette rouge et il faut remplir un formulaire pour les consulter. Dans la salle de documentation à droite, vous trouverez un index des ouvrages. Et il y a aussi un ordinateur pour faire vos recherches. Vous pouvez l'utiliser librement. Aucun livre ne peut être emporté à l'extérieur. Nous n'avons ni journaux ni magazines. Les appareils photos sont interdits. Les photocopies aussi. Si vous voulez boire ou manger, il y a un banc dehors. Nous fermons à 5 heures. Il pose son crayon sur le comptoir et ajoute « Vous êtes lycéen ?» Je prends une inspiration profonde et réponds « Oui. » Cette bibliothèque est un peu différente de celle dont vous avez l'habitude. Nous avons surtout des livres spécialisés, principalement de la poésie ancienne. Des recueils de tanka et de haïku. Naturellement, nous avons aussi une sélection d'ouvrages généraux. Mais la plupart des gens qui font le déplacement jusqu'ici font des recherches dans des domaines spécifiques. Personne ne vient ici pour lire du Stephen King. Et les gens de votre âge sont plutôt rares. De temps en temps, on a des étudiants, mais... Vous faites une recherche sur la poésie japonaise classique? Non. Je m'en doutais. Mais ça ne vous dérange pas que je regarde les livres ? Dis-je timidement, en essayant d'empêcher ma voix de monter brusquement. Il sourit et entrecroise les doigts sur son bureau. Bien sûr que non. C'est une bibliothèque. Tous les gens qui aiment lire sont les bienvenus. Et puis, je ne peux pas le clamer sur tous les toits, mais moi non plus, je ne m'intéresse pas particulièrement au tanka ni au haïku. « C'est un bâtiment magnifique, » dis-je. Il hoche la tête. La famille Komura possède une importante fabrique de saké depuis l'époque d'Edo, et le père de l'actuel monsieur Komura était un bibliophile réputé. Il allait chercher des livres anciens dans tout le Japon. Son propre père écrivait de la poésie. Et de nombreux hommes de lettres lui rendaient visite ici, quand il venait dans le Shikoku. Wakayama Bokuzui, par exemple, ou Ishikawa Takuboku, ou encore Shiga Naoya sont tous venus ici. Ils ont dû s'y plaire, parce que certains y ont séjourné assez longtemps. Chez les Komura, on ne lésinait pas quand il s'agissait d'art et de littérature. Généralement, dans ces familles traditionnelles, il y a toujours une génération qui dilapide la fortune, mais heureusement, ça ne s'est pas passé ainsi chez les Komura. Leur passe-temps restait un passe-temps, et ça ne les empêchait pas de bien s'occuper de leur commerce. Ils étaient riches, très riches. Il fait une petite moue et continue. Ils ne le sont plus autant qu'avant-guerre, mais tout de même, ils ont encore pas mal d'argent. C'est ce qui leur a permis d'entretenir une aussi magnifique bibliothèque. Naturellement, en faire une fondation avait sans doute pour but de réduire substantiellement leurs impôts. Mais c'est une autre histoire. Si le bâtiment vous intéresse, vous devriez vous joindre à la visite guidée qui a lieu une fois par semaine, le mardi, à 2 heures. Et justement, nous sommes mardi. Il y a une splendide collection de peintures au premier étage. Et sur le plan architectural, la maison est intéressante. Vous ne le regretterez pas. Merci, dis-je. Son sourire semble dire « Mais je vous en prie ». Puis il prend son crayon entre ses doigts et se met à tapoter le bureau avec le bout muni d'une gomme. Tout doucement, comme pour m'encourager. « C'est vous qui faites la visite ?» Oshima sourit à nouveau. « Non, moi je suis un simple assistant. C'est mademoiselle Saiki, la responsable de la bibliothèque, autrement dit mon boss, qui s'en occupe. Elle est liée à la famille Komura, une femme merveilleuse. Elle vous plaira, j'en suis sûr. » J'entre dans la salle des archives et je me promène entre les rayons, cherchant des livres susceptibles de m'intéresser. Quelques belles poutres ornent le haut plafond. Le soleil de début d'été filtre par les fenêtres ouvertes sur le jardin, d'où proviennent des gazouillis d'oiseaux. La plupart des ouvrages que je vois sur les étagères sont, comme l'a dit Oshima, des livres de poésie japonaise classique. Des recueils de tanka, de haïku, des essais sur la poésie, des biographies de poètes. Il y a aussi pas mal d'ouvrages concernant l'histoire locale. Dans les rayons du fond se trouvent des livres moins spécialisés. Littérature japonaise, littérature étrangère, œuvres complètes, classiques, philosophie, théâtre, histoire de l'art, sociologie, histoire, chronique, géographie. Chaque fois que je saisis un volume et l'ouvre, il s'échappe d'entre les pages un parfum du temps passé. Les connaissances profondes, les émotions intenses qui reposent derrière ces couvertures ont une odeur particulière. Je la respire, parcours quelques pages des yeux, puis remets le livre à sa place. Finalement, je choisis un volume des Mille et une nuits dans l'édition Burton, avec une belle couverture, et l'emporte dans la salle de lecture. Cela fait un moment que j'avais envie de lire les Mille et une nuits. La bibliothèque vient d'ouvrir et la salle de lecture est déserte. Je peux profiter seul de cette pièce élégante. Elle est exactement comme sur les photos du magazine, haute de plafond, vaste et chaleureuse. Parfois, un souffle d'air pénètre par la fenêtre ouverte, agitant silencieusement les rideaux blancs. Le vent sent la marée. Il n'y a rien à redire au confort du canapé. Un vieux piano droit occupe un coin de la pièce. J'ai tout à fait l'impression d'être en visite chez des amis. Confortablement installé sur le canapé, j'observe les alentours et me rends compte que ce salon est exactement l'endroit que je cherchais depuis longtemps. Un endroit secret, tapis dans un creux du monde, exactement comme celui-là. Mais jusqu'ici, ce lieu n'existait que dans le secret de mon imagination. Je n'arrive pas encore à croire tout à fait qu'il existe réellement. Je ferme les yeux, inspire profondément et il s'installe doucement en moi comme un doux nuage. C'est une sensation agréable. Je caresse lentement de la paume le revêtement crème du canapé. Je me lève, me dirige vers le piano, soulève le couvercle, pose mes 10 doigts sur les touches un peu jaunies. Puis je le referme, fais le tour de la pièce en foulant le tapis ancien au motif de grappes de raisin. J'allume le lampadaire, l'éteins. J'examine les peintures qui ornent les murs. Puis je me rassieds dans le canapé et me plonge dans ma lecture. Vers midi, je sors ma bouteille d'eau minérale et mon déjeuner de mon sac, m'installe sur la véranda face au jardin et commence à manger. Différentes sortes d'oiseaux passent au-dessus de ma tête, volant d'arbre en arbre, ou piquant vers l'étang pour se désaltérer ou se reposer. Il y a parmi eux des espèces que je n'ai jamais vues. Un grand chat brun fait son apparition, et les oiseaux s'envolent d'un seul coup. Mais le matou ne leur accorde pas la moindre attention. Tout ce qu'il veut, c'est s'allonger sur les dalles du jardin et paraisser au soleil. « Tu n'as pas cours aujourd'hui ?» demande Oshima, quand je reviens déposer mon sac au comptoir avant de retourner dans la salle de lecture. Je réponds en choisissant soigneusement mes mots. « Si, mais j'ai décidé de prendre un peu de vacances. »«
Tu refuses d'aller à l'école ?» dit-il.
« Peut-être. » Oshima me regarde avec un profond intérêt.
« Peut-être ?»
Ce n'est pas que je refuse d'y aller, j'ai juste décidé de ne pas le faire.
Comme ça, calmement, et de ta propre initiative, tu as décidé d'arrêter l'école?
Je hoche la tête. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je devrais dire.
Dans le banquet de Platon, Aristophane affirme que dans le monde mythique d'autrefois, il existait 3 types d'êtres humains. Tu connais cette histoire?
Non. Autrefois, les êtres humains ne naissaient pas homme ou femme, mais homme-homme, homme-femme ou femme-femme. Autrement dit, il fallait réunir 2 personnes d'aujourd'hui pour en faire une seule. Tout le monde était satisfait comme ça, et la vie se déroulait paisiblement. Mais Dieu a pris une épée et a coupé tous les êtres en 2 bien nettement par le milieu. Résultat, il y a eu des hommes et des femmes. Et les gens se sont mis à courir dans tous les sens, toute leur vie, à la recherche de leur moitié perdue.
Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Couper les gens en 2? Je n'en sais rien, moi.
Ce que fait Dieu est généralement assez incompréhensible. Il se met facilement en colère et puis, comment dire, il a une tendance à l'idéalisme.
J'imagine que c'était une punition.
Comme dans la Bible, quand il a chassé Adam et Ève du paradis.
Le péché originel ?
Dis-je.
Oui, le péché originel.
Il tient son crayon en équilibre entre l'index et le majeur et le fait osciller lentement.
En fait, je voulais dire que c'est difficile pour un humain de vivre seul.
Je retourne dans la salle de lecture lire la suite de l'histoire d'Abou Hassan le bouffon. Mais j'ai du mal à me concentrer. Homme-homme, homme-femme ou femme-femme ?